Merci Pépita. Tout de suite, la main passe à Barjabul.
Oui, alors, en trois, habitation.
Laitue.
Propension.
Ah oui, métronymie.
Podcast.
Ah mais Comics Outcast. Cast.
Bravo.
What the fuck was that?
Incroyable. Je sentais Joe préparer un mauvais coup, mais je savais pas ce que c'était.
Bonjour et bienvenue dans cette 33e émission de Comics Outcast. Pendant une heure, on va parler de comics et de leurs univers, avec beaucoup de mauvais soins, mais toujours beaucoup d'humour et d'intérêt. Mais pas tout seul, avec moi, trois animateurs, trois chroniqueurs. Bon, c'est des animateurs finalement, hein, on est au même niveau, et un réalisateur. On va commencer par Laine. Bonsoir Laine.
Bonsoir Eric.
Comment ça va?
Bah, ça va bien, écoute, je suis très contente de retrouver Luc ce soir, deux filles dans une émission.
C'est vrai que ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas fait la...
Ça fait même surtout très longtemps que t'étais pas là. On a avec nous également Adrien.
Yo.
Comment ça va?
Ça va bien.
Cool de l'entendre. Et enfin, on a Lucille dans les chroniqueurs.
Yeah, 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 coucou.
Waouh. Et à la réalisation, comme d'habitude, Joe.
Bonsoir.
Il va bien, Joe?
Oui, il va bien, il est content de son petit générique.
Toujours depuis.
J'ai essayé d'en faire un différent à chaque fois, selon le temps.
Ça va être la surprise pour nous aussi.
Oui, bah oui, évidemment.
Sinon, tant mieux. C'est pas drôle.
Toujours depuis le studio B de Wii FM. Comme d'habitude, vous pouvez nous laisser vos recommandations sur Twitter, Facebook, faire vos commentaires et ainsi de suite. Je vais vous parler du programme d'aujourd'hui qui est assez sympa. Cette semaine, on va voyager. Ça va être cool. On va partir en Grande-Bretagne avec Injection. On va partir en Russie avec Red One. Et enfin, on va partir au milieu du Pacifique avec Kaiju Max. On va parler également en détail de la série Kick-Ass, et c'est Lucie qui va pouvoir la présenter un peu plus tard. Et en toute fin d'émission dans Hors les Bulles, la partie qui se consacre à tout ce qui est des comics, mais qui n'en est pas, on va parler de Superman dans un cadre un peu particulier, les toutes premières versions animées de Superman qui sont disponibles sur le site d'Arte Créative. On parlera de ça un petit peu plus tard. Comics Outcast numéro 33, c'est parti. Première escale de ce voyage avec Lane, on va parler d'Injection, donc une série Image Comics qui a commencé en mai de cette année.
Tu nous casses les couilles pour dire les trucs en anglais, toi tu dis injection.
Bah oui, écoute, hein. Je me suis pris tellement de remarques, tu vois pas avec cet accent machin, injection.
Et ben voilà, injection. oui, bah déjà tu as tout dit, c'est donc un titre Image. Bon, c'est un petit peu la maison à laquelle je suis un peu abonnée depuis le début. À chaque fois je présente un titre Image, donc ça change pas une équipe qui gagne. Donc il y a déjà un TPB, donc un recueil des premiers épisodes qui est sorti. Sinon, vous pouvez lire cette très très bonne série donc de Warren Ellis en issue. Donc, comme je viens de vous le dire, donc c'est un titre de Warren Ellis. On le présente plus vraiment trop parce qu'il a quand même, c'est un grand scénariste britannique, donc a travaillé sur, par exemple, Transmétropolitan, Planetaries, ou plus récemment sur une série Trees. On en parlait avant le début de l'émission.
Et on en a aussi parlé dans l'émission, dans un de nos premiers épisodes.
Voilà, donc du coup, c'est quelqu'un qui, pour moi, après, c'est encore une fois mon avis perso, peut faire aussi bien des trucs de fou que des trucs pas très cryptiques, et donc du coup, on a tendance un peu à passer à côté, en fait. C'est un peu tout l'un ou tout l'autre. Au niveau du dessin, c'est Declan Shalvey, qui n'est pas très 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 connu, mais qui a eu un gros coup de projecteur dernièrement, puisqu'il a travaillé justement avec Ellis sur les Moon Knight de Marvel No, et qui avait fait avant un peu de Thunderbolts, déjà avec Warren Ellis. Et voilà, donc un dessin assez particulier, assez anguleux, assez sympa. Et le coloriste cette fois, donc c'est Jordi Belair, qui est une femme et qui est lauréate d'un Eisner en 2014 pour son travail notamment sur Manhattan Project, Pretty Deadly ou Massive, et qui offre toujours une mise en couleur super sympa.
Ouais. C'est quoi un Eisner?
Alors, c'est un prix très célèbre aux États-Unis qui est donc d'après Will Eisner, qui est un grand dessinateur américain. Et en fait, il y a plein de catégories. Meilleur scénario, meilleur...
Donc que pour les comics?
Pour la bande dessinée, ouais,
en général. Okay. Et l'animation
Oscars,
aussi.
C'est les Oscars des comics.
Ah, la grande classe, quoi.
Ouais.
Et donc, il est
gagnant, assez...
En gros, tu vois le logo Disney d'aujourd'hui.
Ouais.
C'est un peu lui qui l'a... qui l'a popularisé. Enfin, voilà. Les deux sont liés, en fait. Eisner et Disney on va dire, explosé ensemble.
Ça. Et puis, enfin, ça fait.
Pourquoi parler de lui, putain.
Quand t'en gagnes un, en fait, tu le mets sur la couverture du livre. Enfin, c'est vraiment, ils insistent dessus sur le fait que le bouquin est lauréat d'un Eisner Award. Ça fait toujours des ventes en plus.
Quoi. Ok.
Gage de qualité. Donc voilà. Comment je vais vous résumer ce comics?
Bonne question.
Parce qu'en fait, quelque part, j'ai pas envie de vous le résumer parce que, comme je vous l'ai dit, c'est hyper cryptique, mais c'est pas un défaut sur Injection. Moi, j'ai triché, forcément, j'ai lu plus que les trois premiers. Et j'ai envie de vous dire, de toute façon, c'est une espèce de puzzle. Donc si vous lisez les trois premiers, comme ça, que vous vous arrêtez comme ça, de façon abrupte, vous allez vous dire, putain, mais en fait, je comprends pas grand-chose. Parce qu'en fait, à chaque issue, vous allez avoir des petits indices et vous allez vous faire vos propres théories jusque, entre guillemets, à la fin du premier TPB, donc de la sixième issue. Vous ayez des bribes de réponses, mais encore là, vous n'êtes pas arrivé en fait. Mais du coup, quelque part, vous prenez plaisir à monter vos théories et à voir si ça se confirme ou si ça s'infirme au fil des épisodes. En plus, on va quand même essayer de résumer vite fait. En gros, il y a des événements un peu inexpliqués qui arrivent au travers du globe, des gens qui disparaissent. Et en fait, on fait appel à Maria Kilbride, qui est une scientifique qui, on le voit au début de l'émission, c'est un, comment on dirait nos amis américains, c'est un mess.
C'est un hot mess.
Elle est à la ramasse, elle sort d'un hôpital qui, semble-t-il, est un espèce d'hôpital quand même un peu psychiatrique.
Et elle est très maigre, elle est très...
un petit peu. Ouais. Et elle porte sur l'avant-bras un tatouage qui en forme de seringue, donc qui fait référence à Injection. Et on comprend qu'elle a fait partie avec d'autres gens, donc d'un projet, et que c'est lié à ces phénomènes étranges qui se produisent aux quatre coins du globe. Et on lui demande de venir aider pour résoudre un peu ça. Et donc, au travers de flashbacks, on va essayer de comprendre au fur et à mesure qu'est-ce qui s'est passé avant, pourquoi ils en sont là, qui sont ces personnages,
dedans, voilà, ouais.
Comment ils se sont retrouvés et ce qui arrive maintenant. Et ce que je trouve sympa, c'est qu'en fait, ça fait appel à plein de choses différentes, parce que aussi bien le récit est ancré, c'est très moderne, et en même temps, on navigue sur plein d'idées de folklore, de mythes, de légendes. Il y a un côté hyper poétique dans l'écriture, dans la narration, et en même temps, chaque personnage à son univers propre, mais qui arrive à coïncider avec celui des autres, plus un univers qui est celui du narrateur, puisqu'en fait, quand on lit, il y a des passages où la narration est faite en jaune, en capital, et on comprend que
et pas dans des bulles,
et pas dans,
et
des,
pas
bulles,
dans ouais. des cases. Ouais. C'est vraiment, ça sort, vous pouvez pas le rater. Quoi.
C'est très très particulier, et c'est cette voix en fait qui s'interroge un peu, qui est une sorte de conscience extérieure qui nous parle de chaque personnage. Et après, ils ont leur dialogue, etc. Et tous les personnages sont très, très différents. Il y a une aqueuse qui s'appelle Brigid. Il y a le personnage du wizard qui dit « Je ne suis pas un wizard » tout le temps, qui est le dernier wizard d'Angleterre. Enfin, ils ont...
Une espèce de chaman d'une... une sous-espèce de chaman traditionnel dans les vieux comtés anglais de l'époque passée.
Ouais. Et c'est là qu'on retrouve beaucoup le folklore anglais, ce côté très, très, très mythes et légendes que je trouve sympa, justement, qui va se développer plus tard dans la série et qui est vraiment exceptionnel. Donc je veux pas vous en dire plus. Franchement, si vous avez commencé la série et qu'au bout de trois issues, vous avez l'impression que vous allez nulle part, dites-vous que voilà, c'est un puzzle, qu'il faut suivre le truc. Et qu'il y a un petit côté hyper nostalgique, hyper contes et légendes un peu. Et si ça vous plaît, forcément ça vous plaira. Pour vous dire deux, trois mots du dessin, c'est Chalvez particulier, c'est très anguleux, mais en même temps je trouve qu'il maîtrise hyper bien les différentes scènes qu'il a à faire, parce qu'il y a un épisode qui est plus centré sur une scène de baston, et je trouve que la scène de baston passe très très bien. Le mouvement, c'est fluide, c'est clair, il passe d'une ambiance à l'autre, puisqu'après quand on se retrouve dans la campagne anglaise avec ce côté justement le chaman,
bucolique,
le côté voilà, très poétique, on a vraiment cette impression d'espace, de grandeur, de... C'est il arrive à jongler avec les univers et à nous dépayser alors qu'en fait finalement nous on bouge pas. Donc ça c'est assez fort. Au niveau des couleurs, la palette elle est magnifique quoi. C'est tous ces verts, toutes ces couleurs automnales. Enfin, elle a pas gagné son Eisner pour rien quoi. Elle est là et elle fait du super taf.
Joey, une question.
Non, c'est pas vraiment une question, c'est pas du tout le même style d'histoire, mais ça m'a rappelé un peu le dessin de sur Harlow County.
Ouais, ça fait penser
dans
un peu...
Dans les couleurs et dans les formes. Si ça vous a plu, en tout cas, ouais. Vous allez peut-être vous y retrouver un peu.
Harrow County, ouais, c'est cool. Je trouve que c'est un peu plus rond sur Harrow County,
oui.
Alors que Chalvet, c'est vraiment un peu plus anguleux, moi, j'ai trouvé. Par moments, c'est un peu cassant, surtout quand il exprime Maria Kilbride, qui est vraiment... fatigué. C'est vraiment les personnages au bout du rouleau. Mais en même temps, il y a un autre truc que j'ai beaucoup aimé, c'est l'humour, parce qu'il y a plein de petites vannes, plein de petites choses, notamment la vanne du réparateur d'ordinateur à la fin, Brigitte qui fait vous avez essayé de le relancer,
ça vient de The IT Crowd.
Ouais.
Did you try turning it on and off and on again?
Yes, meilleure fin de chapitre jamais.
Voilà, donc en gros, Injection, lisez-le, quoi, c'est bon.
Lucille, on va prendre ton avis.
Ben écoute, cryptique, c'est vraiment le mot. Hein. Moi, j'ai carrément arrêté au début du troisième chapitre parce qu'effectivement, il y a plein de petits morceaux partout. Ça m'a un peu perturbée. Donc, puisque je rappelle, nous, on est censé lire que les trois premiers issues pour vous en parler. Et effectivement, t'as absolument aucune réponse. T'as des éléments épars un peu partout. Donc, j'ai pas réussi à accrocher parce que justement, il y a trop d'éléments différents, même si on sait qu'il y a un lien au bout d'un moment, et ça n'a pas réussi à me tenir. Donc il y a deux trois trucs par-ci par-là. Donc voilà, la fin du premier issue qui m'a vraiment marqué, je l'ai même noté dans mes notes, tu vois, tellement voilà. Et puis outre le fait qu'il y a une espèce d'obsession pour les sandwichs qui m'a donné la dalle pendant deux chapitres, mais du coup effectivement la façon dont t'en parles, Lane, ça me convainc éventuellement d'aller plus loin, mais effectivement accrochez-vous.
Ok. Et Adrien, enfin, pour clôturer.
Moi, en fait, j'ai presque envie qu'on renomme Image Comics édition Atlas, dans la mesure où, en fait, quand tu sais, t'achètes le numéro 1, mais t'as vraiment que le tout petit premier pied du dinosaure, quoi, tu vois. Et si tu veux avoir ta statuette en entier, il va falloir que tu t'achètes les 150 numéros. Et du coup, en ça, je trouve que, enfin, c'est un peu une arnaque qui m'énerve avec Image Comics, genre cette espèce de enfin, je l'ai déjà dit mille fois, mais c'est que quand ils commencent une série, ils prennent pas la peine de te donner envie. Enfin, moi, j'ai ressenti ça comme ça au bout du 1, au bout du 2, au bout du 3. J'ai toujours pas envie, j'en ai marre un peu d'être devant un...
Tu penses que chez Image, ils mettent plus l'accent sur « Ok, ce mec a une idée et il lui faut 25 fascicules pour le développer. » Et du coup, bah, il prend son rythme et les fans, ils vont acheter pour atteindre...
Les fans vont acheter. Si tu veux, quand en Lane, tu parles d'indices qui sont éparpillés, moi, genre payer 4$ l'indice, ça me fait un peu mal, quoi.
Lane.
Le pay to win.
Alors, je rebondis... chez Image, ce qui est bien, c'est que par exemple le premier TBB te coûte 10$ en fait, donc finalement t'as 6 issues pour 10$, donc à la limite tu vois, tu les prends pas en issue. Il y a plein de gens que je connais, enfin,
coup la logique elle est complètement sur les volumes et pas du tout les chapitres. En gros, ceux qui achètent les chapitres, c'est les fanboys, quoi.
Il y a des gens qui aiment lire que en issue en fait, parce qu'ils préfèrent l'objet.
C'est insupportable à lire là comme ça en issue.
Bah, par exemple, il y a des trucs, moi je suis d'accord avec toi, qui ne fonctionnent pas en issue. Il y a certaines séries que j'ai lues où quand j'ai lu en issue, j'ai laissé tomber. Quand j'ai relu en volume, je me suis dit « Ah, mais en fait, ouais, ça marche vachement bien. » Une espèce
de cohérence
qui
n'existe pas.
Je vois la couve du numéro 1, je me dis « Ok, je vais l'acheter, c'est super joli. » Et d'ailleurs, à feuilleter, c'est super agréable. Par contre, en termes d'histoire, si tu me laisses un mois entre le chapitre 1 et le chapitre 2, je sais que j'aurais oublié le truc, parce que je suis même pas spécialement accroché, en fait.
D'accord, ça peut être un sujet de débat prochain.
Mais franchement, je suis d'accord avec lui. En plus, c'est vrai que Warren Ellis, comme disait aussi Lucille, c'est hyper cryptique.
Ouais.
Et qu'on en parlait avant, Trees.
On parlait de Trees, oui.
Trees, quand tu les lis fascicule après fascicule, t'as l'impression qu'il se passe rien dans ton épisode.
En fait, tu voles de place, de lieu en lieu, de personnes qui vivent plus ou moins le même phénomène et qui parfois interagissent, mais en fait pas vraiment. Et l'histoire générale n'avance pas, puisqu'en fait, tu te concentres tellement sur les protagonistes qui sont à 16 000 km les uns des autres que on peut se focaliser sur l'histoire, s'il vous plaît, merci.
Du coup, ça ne peut marcher que sur la confiance que t'accordes à l'éditeur, à te dire, genre. Oui, ça va quelque part, je le sais.
Justement, ils sont un peu plus moins regardants, quoi.
Ouais, non, enfin.
C'est le pari d'une autre façon de raconter les histoires aussi, du coup.
Ce que je veux dire par mon regardant, c'est pas
oui,
genre.
Mais je trouve que c'est pas. Moi, j'ai pas l'impression que ça soit. Et d'ailleurs, on l'a vu. Enfin, on le verra tout à l'heure, par exemple, sur Red One. Je pense que c'est pas incompatible de t'accrocher en une issue, quoi. Enfin, je veux dire, quel est le problème de la du scénariste qui écrit son truc et qui se dit non, franchement,
de révéler un peu.
J'ai pas besoin de l'expliquer. Ils achèteront les trois premiers ou le premier volume.
Moi, ça m'agace. Tu vois.
Ouais, mais ça, c'est Warren Ellis. Warren Ellis fait toujours ça. C'est genre.
Moi, j'ai quand même écrit Iron Man 3. Hein. Je voudrais pas mettre de l'huile sur le feu, mais. Gros traumatisme Iron Man 3, le scénario quand même. C'est bien le même type.
Moi j'ai bien aimé.
On va passer, donc il s'agit d'une série Image Comics, disponible depuis mai 2015. Donc Lane l'a annoncé, c'est disponible en volume relié. Vous pouvez donc le récupérer et donc profiter peut-être de l'histoire au-delà des trois premiers pour mieux la saisir, ne pas avoir la frustration qu'on a pu ressentir en ne lisant que les trois premiers. On va passer à la revue suivante, c'est Lucille qui va nous la présenter. Il s'agit d'une mini-série en deux volumes, mais un peu plus épais, enfin deux volumes, excuse-moi, en deux issues, en deux chapitres, on va dire, voilà. Plus longue que ce qu'on a pu lire jusque-là. Il s'agit de Red One. C'est chez, encore une fois, Image Comics, oui. Je suis désolé. Et tu vas nous la présenter, s'il te plaît.
C'est ça. Alors, Red One, comment ça se passe? Donc, nous sommes en 1977. Le monde est à peu près tel qu'il était pour nous donc à l'époque, hein, des pas de def, la guerre froide, la sortie imminente de Star Wars. Donc à ce moment-là, donc dans le comics, aux États-Unis, il y a un mouvement qui émerge, qui est donc un mouvement conservateur religieux, qui s'est donné la mission de, presque je cite, protéger le pays des péchés, donc à savoir l'homosexualité. C'est un mouvement qui prend vraiment une grosse ampleur. Il se trouve qu'au même moment, il y a un espèce de justicier qui est surnommé The Carpenter, donc le charpentier, qui donc commence à s'en prendre violemment, donc à causer des meurtres, etc. Donc soit à des homosexuels ou à des personnes participant à la promotion de l'homosexualité. Donc ça peut être par exemple une actrice qui tourne un rôle d'une lesbienne dans un film, par exemple. Et à chaque fois que ce justicier, entre guillemets, frappe, ça donne encore plus de pouvoir et de visibilité et d'engouement quant à ce mouvement très extrême. Enfin bref, donc voilà, il y a un climat vraiment pas cool qui commence à qui émerge aux États-Unis, c'est pas la joie. Et en fait, loin, au-delà de l'Atlantique, ce climat commence à inquiéter carrément le Kremlin. Donc je rappelle, c'est la guerre froide. Parce que le Kremlin, en fait, redoute que ce mouvement-là parvienne jusqu'aux élections et, en fait, échauffe les esprits et donc carrément la guerre froide et donc craignent l'escalade jusqu'à potentiellement la guerre nucléaire, etc., tout ce qui était le cas à l'époque. Pour pallier à tout ça, il décide alors d'envoyer un agent double. Donc, il s'agit d'une nana qui s'appelle Vera Yelnikov, qui est une agent surentraînée. C'est le genre de nana qui a été récupérée au berceau et entraînée dès ses plus jeunes années à être un super espion.
Genre Black Widow va te coucher, quoi.
Un petit peu, ouais. Et il l'envoie alors aux États-Unis pour en faire une super-héroïne, vraiment au sens propre du terme, avec une identité et un costume, qui en fait serait à la fois chargée de contrebalancer ce climat délétère à prendre un autre parti que celui du Carpenter, et au passage éventuellement de le trouver pour lui faire sa race. Donc, au niveau de l'écriture, c'est écrivé.
Oui, mais laissez-la.
Alerte au Google. Alerte au Google, les enfants.
Et voilà. Grand hommage, puisque donc l'auteur est français, et j'invente des mots pour l'occasion. Donc il s'agit de Xavier Dorisson, du coup, je profite, parce que moi, au début, je me suis dit, yeah, Xavier Dorisson. Et non, en fait, il est français. C'est un type qui a écrit pour plein de séries franco-belges. Il a écrit du Torgal.
Non,
malheureusement. Torgal 13, il a fait une série qui est assez réputée, qui s'appelle Le Dernier Testament.
Torgal, pas encore. On attend encore le tome 35, c'est lui qui reprend, mais ouais, ça devrait sortir.
Voilà. Il est aussi script doctor sur tout un tas de trucs, en BD, en ciné, en série française. Et il a notamment fait le scénario de l'adaptation française des Brigades du Tigre. Ouais, c'était pour la petite anecdote. Au dessin.
C'était nul.
C'était pas très très bien quand même. Au dessin, on a Terry Dodson, dont on a déjà parlé dans Comics Outcasts numéro 20 de juin, là, puisqu'il dessine également la princesse Leia, et il est accompagné, comme toujours, de sa femme Rachel Dodson, qui fait pas mal d'ancrage et les couleurs. Et d'ailleurs, effectivement, les couleurs sont vraiment cool.
Ça pète.
Voilà. Alors, en ce qui concerne justement l'édition, donc effectivement, il y a deux chapitres qui sont sortis, un en mars et un en avril 2015. Et au mois de septembre, en fait, en France, est sorti chez Glénat donc un relié, entre guillemets, qui comprend en fait plus de choses que ce qui sont sortis aux États-Unis. Donc en gros, truc bizarre, mais achetez l'édition française.
Ah oui.
Donc Lane pourra éventuellement en toucher un petit mot quand j'aurai terminé, parce que justement c'est elle qui m'a parlé de ça. Donc nous, pour notre part, on a lu les deux chapitres, on va dire, qui sont sortis en chapitre, voilà, tout simplement. Et ça casse pas mal de cul. L'héroïne est super badass, elle est extrêmement sexy, elle est extrêmement sexualisée, il faut l'avouer.
Oui.
C'est quand même un message fort, parce que c'est quand même un super-héros agent double qui est quand même envoyé pour protéger la liberté et lutter contre l'homophobie. Donc je trouve ça plutôt,
c'est vrai
plutôt
que c'est
pas
un,
mal comme parti pris.
Ouais, elle aurait pu chercher autre chose, la gloire de la Russie, les trucs un peu clichés qu'on peut avoir dans les médias qui parlent de ça, de la guerre froide, même genre des Americans, trucs comme ça. Là, c'est juste l'homosexualité.
Voilà, c'est quelque chose qui est extrêmement ciblé. Donc c'est un parti pris scénaristique qui est assez audacieux et plutôt sympa hein, quand même, parce que ça reste positif. Pour ma part, j'ai vraiment adoré. Je vais probablement m'acheter l'édition française pour savoir ce qui se passe après. Lain, je te laisse nous parler vite fait de cette histoire d'édition chelou. Donc tu m'as dit l'édition française en fait a plus de choses que ce qu'on a dans les deux chapitres qu'on a
normalement lu. Alors si je dis pas de bêtises, le 3 en américain sortira au printemps 2016.
C'est ça.
Alors que dans la version française, oui, on a un peu plus de matériel. Moi je l'avais lu en français, je vous avoue que je ne l'ai pas relu en anglais puisque du coup je savais qu'il y avait moins de choses, donc je me suis jetée sur la version française qui est parue avant du coup, puisque ils avaient eu les droits étant donné que le scénariste est français, donc
Et c'est chez Glénat.
Voilà, c'est chez Glénat.
Avant de finir la fin, non, je vais laisser finir la revue, on reviendra sur l'édition sur les éditions un peu plus tard. Du coup je te laisse la parole, Lane, est-ce que tu veux parler un petit peu de la série?
Alors moi je suis désolée, ne me tape pas Lucie, mais je ne m'envoie pas tes livres, voilà, mais
c'est
je
pas mon genre.
Ouais, non, je sais. Lucie est non violente. Mais moi je n'ai pas du tout aimé quoi.
Et pourquoi donc?
Parce que c'est du fan service, c'est oh je suis belle, je suis sexy, je me penche en avant, j'ai des gros seins, je machin, et c'est oui. Bah non.
Non.
En plus j'adore Dodson, hein. je le kiffe, c'est lui qui avait bossé sur la première série Harley Quinn. J'adore ces femmes, elles sont super belles.
Oh,
oui. Mais juste.
Oui.
Et puis là, il avait un moment fait un énorme poster avec toutes les héroïnes d'ici en toge, etc., qui était superbe. Je trouve qu'il magnifie les femmes, même si elles ont tendance à se ressembler souvent dans les traits, etc. Mais voilà. Il avait fait une précédente BD qui s'appelait Songe, qui était aussi une superbe sculpturale femme, etc. Bon, c'était un peu plus éthéré.
Du coup, franco-belge, celle-là, ou bien c'était un comics? Enfin, où est
non,
la frontière?
Dans l'édition, mais ça ressemblait à du franco-belge, puisque c'était un grand album cartonné, il y avait deux volumes. Et c'était un peu pareil, voilà. Elle était jolie, elle était un peu ingénue, puis elle était tout le temps dans des tenues superbes. Et là, c'est un peu pareil, en fait. C'est-à-dire que je lis et une fois que je l'ai lu, je m'en fous quoi. Je veux dire, ça me touche pas, il y a pas, ça éveille rien. C'est du fan service, c'est un beau comics, c'est l'histoire et c'est fun, mais c'est pas un truc que je relirais 3-4 fois.
Ça n'a rien inventé.
Il y a pas, voilà, c'est beau, c'est tout.
Adrien, ton avis sur Red One?
Alors j'ai adoré. Moi, c'est une série que je vais pas laisser tomber. Parce qu'être une femme libérée, tu sais, ce n'est pas si facile.
Oh non, tu n'as pas fait.
Non, non, mais en fait, je suis pas trop d'accord avec Lane dans la mesure où oui, c'est sexualisé, mais en fait, justement, ça montre, je trouve, une femme ouvertement, elle est pas sexualisée à son
insu.
À son insu, voilà, genre.
Ah oui,
elle est complètement. C'est
elle n'est pas esclave du
c'est
truc.
Elle qui est une femme libérée,
toi,
qui a grandi dans une forme de on pourrait la qualifier d'hédoniste d'ailleurs. Elle a l'air d'être complètement open sur pas mal de trucs.
Elle est open, ouais.
mais voilà, mais en fait, je sais pas, je trouvais ça. En plus, c'est présenté de façon. Je sais pas, assez saine, c'est pas racoleur quoi.
Ça reste subtil.
Ouais, je sais pas, ça en fait pas des cas, c'est juste que. Tu vois, par exemple, elle est visiblement dans un trouble, elle part tous, visiblement, elle est complètement bi, visiblement. Mais c'est pas présenté comme. Enfin, je sais pas, elle fait pas baver les mecs, elle manipule pas les gens. Je sais pas, moi j'ai trouvé ça justement ultra sain.
Pas japonais, quoi.
Non, je sais pas, c'est pas.
Bah, elle a pas 12 ans, donc c'est bon.
C'est pas une écriture perverse autour d'elle, quoi, tu vois, c'est très propre. Et alors, du coup, puisque j'ai la couverture sous les yeux et que je vois que c'est Image, je me dis, bon sang, c'est possible d'écrire un truc correctement chez Image, quoi, en fait. C'est possible
de donner envie.
Non, mais c'est juste, voilà, à la fin, on a un vrai truc. Elle est devenue super-héros aux États-Unis et ça marche super bien. Donc, enfin, je sais pas, j'ai vraiment beaucoup aimé, je continuerai, je pense.
Lucille ?
Juste une dernière petite précision sur l'édition française. Bon, déjà, elle s'appelle pas Red One en français, ça s'appelle Red Skin, ouais. Donc ne vous trompez pas si ça vous intéresse. Bon, j'ai pas trouvé l'intérêt du changement de titre, mais bon. Pas moi qui décide. Et par contre, justement, sur l'édition française, elle est complètement à poil sur la couverture. Alors, et justement, j'ai trouvé que ça mettait en avant
l'histoire
un truc
du nom. Je pense qu'elle est un peu logique. Un Redskin aux États-Unis, bof, quoi.
Ouais. Oui, mais du coup, ils auraient pu laisser Red One, par exemple. Tu vois ce que ça veut dire?
Non, mais c'est d'abord sorti en France. Ça s'appelait Redskin.
Ouais,
c'est
ça.
France.
D'accord. Okay. Changé après.
Je pense qu'ils pouvaient pas.
Okay. Puis c'est pareil pour la nudité. Ils pouvaient pas. Et en fait, quand la série a été présentée en France, c'était vachement plus sexualisé. Donc en fait. Moi aussi, j'ai eu tous les pervers du monde entier qui sont venus acheter la série en mode « Fifi, elle est où la nouvelle série avec la fille à poil ?» Tu vois, j'avais ce côté un peu...
Ah, parce qu'il y a des scènes où elle est à poil dans la version que t'as lue ?
Oui.
Parce que là, il n'y a pas de...
Et c'est dans la suite ou c'est parce que ça a été censuré dans la version américaine ?
Je pense que ça a dû être censuré parce que moi, j'ai
vu
la version française.
Ah, mais ça change tout !
Ça change la...
Parce que moi, dans ma version,
elle est souvent
à poil. Donc,
parce que je te dis que... Enfin, moi, j'ai lu une version pudique du truc et je trouvais ça très bien écrit.
Alors, cher auditeur, si tu es un pervers... Tu peux récupérer la version française. Non, j'ai gagné. Mais d'accord, même ça change tout.
Non, mais je rigole. Non, mais effectivement, si elle est à poil dans la moitié du truc, peut-être que ça va moins me plaire.
Je vois les quelques scènes où elle pourrait être à poil.
Dans la présentation aussi, ils vendaient ça comme donc l'espionne qui venait du froid. Et sa couverture, c'est d'être actrice porno. Donc il y avait aussi autour du truc une présentation qui était vachement moins sympa.
Ah, d'accord, c'est incroyable parce que c'est vraiment pas quelque chose que j'ai
vrai. J'ai lu la version américaine. Du coup, il n'y a pas du tout ça. Elle a vraiment une innocence, une espèce de force intérieure. Je représente ma patrie. Plus, je vais faire tout ce qu'il faut pour m'infiltrer. Le truc le plus chaud qu'on va dire qu'elle fait, c'est de se taper le premier qu'elle trouve dans l'avion. En direction des États-Unis, mais effectivement, si ça va plus loin et que la présentation du personnage, en tout cas sa mise en avant, est plus sexualisée, c'est vrai que je comprends ton point de vue,
parce que effectivement, il y avait une dichotomie entre nos deux points de vue.
Ah ouais,
coup,
donc en fait, c'est deux produits différents.
Truc,
ce sont deux
fait.
Produits différents. Enfin, il faudrait qu'on lise l'autre du coup.
Ouais, il faudrait que
c'est super intéressant.
Du coup, ça me donne encore plus envie d'acheter la version française. Déjà pour lire la suite et puis du coup pour voir.
Mais
du coup, je déchirerai les pages. Elle est nue pour pouvoir lire ma version censurée.
Mais moi je me rappelais d'un truc beaucoup plus sexualisé et.
Mais du coup tu es la méchante, du truc qui veut brûler les. Tu veux censurer et tout.
Alors pour conclure, je voulais juste rajouter quelque chose, parce qu'en fait dans les pages qui concluent le deuxième chapitre, Dorisson raconte que le livre ne sortira que, enfin, à la façon d'une BD franco-belge, c'est-à-dire que c'est une fois par an, en album, qu'il a prévu d'en faire 4-5 et ainsi de suite, et que voilà, il demandait aux Américains de changer leurs habitudes, de devoir attendre plus longtemps.
Ah oui,
ça, c'est super intéressant.
Il n'y en a que deux depuis avril. Donc
voilà, c'est ça. Et il faudra attendre, donc, comme disait Lyle en début de chronique, le printemps prochain pour voir la suite. Donc c'est chez Image. Et chez Glénat, donc on vous a parlé des deux versions, vous choisissez celle que vous voulez. En attendant, on va passer rapidement à la troisième revue de cette semaine. Il s'agit de Kaiju Max, une série dessinée et scénarisée par Xander Cannon. Et c'est Adrien qui va nous en parler.
Oui, donc Kaiju Max.
Bonsoir.
Je sais jamais comment ça, ces trucs-là, c'est horrible. Kaiju Max, qui est sorti chez Oni Press cette année, donc effectivement, par Xander Cannon, qui scénarise et qui dessine. Xander Cannon, qui a déjà collaboré avec Alan Moore, par exemple, ou qu'on connaît pour Heck, mais qui a aussi collaboré à Fable. Kaiju Max, alors pour revenir du coup sur le terme Kaiju, pour ceux qui ne savent pas, ce sont les monstres dans la mythologie japonaise.
Pour ceux qui n'ont pas vu Pacific Rim.
Ouais.
Par exemple. Donc parmi les grands Kaiju, ces monstres mystérieux, on retrouve Godzilla, Gamera, Mothra ou encore King Kong. Il faut différencier le monstre japonais, le Kaiju, du monstre tel que nous on l'envisage en tant que force maléfique. Dans cette mythologie, ce sont plutôt des forces de la nature avant tout, et ils sont là pour réguler ce que font les humains en fait. Donc parfois ils sont contre les humains, parfois ils sont avec les humains. Bref, Kaiju Max dans cette série nous présente une île isolée sur laquelle les hommes ont créé une sorte de prison où ils stockent les
c'est ça.
Ils stockent,
c'est
hein,
stack,
ils,
c'est du stock.
Ou
de l'élevage, je sais pas.
Voilà, ils incarcèrent, on va dire, les monstres, les kaijus. Peu importe un peu ce qu'ils ont fait et ce qu'ils avaient pu vouloir dire à un certain moment.
Oh, voilà, les oreilles, petit claquage d'oreilles, désolé l'éditeur.
On commencera dans le premier chapitre par suivre l'histoire d'Electrogore, qui sera un petit peu notre porte d'entrée dans ce monde de Kaiju Max.
Alors déjà, pourquoi Kaiju Max?
Pourquoi Kaiju Max?
Oui, pourquoi Max?
Ah, pourquoi Max?
Oui.
Alors ça, je peux pas te le dire.
Maximum Security.
Oh putain.
Ah, je pensais que t'avais...
Ah, je ne sais. Fait. Non, je ne savais pas du tout. Mais écoutez, vous venez de m'apprendre quelque chose, cher Eric. Donc, Electrogore, qui est un monstre qui vient de se faire capturer et qui vient d'être ramené sur Kaiju Max... On est clairement mis dans sa position et c'est lui qui va nous aider à rentrer dans l'histoire. On est face à l'incompréhension entre les kaiju et les humains. Le monstre, en fait, Electrogore voulait nourrir ses enfants.
Le pauvre.
Et pour lui, ce sont les humains, les monstres. Très vite, en fait, il va arriver dans un véritable système carcéral avec des histoires de prison. En fait, il va être pris entre des gangs, pris dans des trafics, pris dans des personnalités un petit peu manipulées d'ailleurs, baladées de personne en personne, et ce qu'ils pensent faire comme bon choix vont s'avérer plutôt être mauvais. Alors je vais pas aller beaucoup plus loin dans la présentation du titre, si ce n'est que quand je l'ai feuilleté, enfin quand je me suis dit allez go Kaiju Max Sony Press, je me suis dit on va bien rigoler, je vais un petit peu me moquer d'un comics et qui avait l'air assez enfantin et puis peut-être qu'elle est pas très très loin, et en fait je me suis retrouvé face à quelque chose qui était à la fois frais et fun, dessiné, c'est un dessin numérique, enfin, on voit que c'est fait à la tablette, c'est peut-être pas forcément le dessin le plus léché du monde par Xander Cannon, mais au final dans l'écriture et dans la mise en place des intrigues c'est quelque chose qui est assez violent. Ça m'a rappelé enfin, des grandes histoires de prison avec les gangs, les trafics de drogue. Là, ici, on, comme les monstres sont souvent addicts aux différentes énergies, comme l'électricité, l'uranium et les trucs comme ça. Il y a des gardiens de prison, des humains, mais qui peuvent se transformer.
Comme dans les séries japonaises.
Voilà. Qui gère ça. Et ça crée des tensions et des trucs. En fait, ça crée un récit qui est bien plus adulte que ce à quoi je m'attendais.
Parce que le dessin est très très coloré. Enfantin.
Ouais, c'est très coloré. C'est même, enfin, il y a des.
Très beau.
C'est pas super beau. Mais
c'est
en fait,
détaillé.
au bout du 2 ou 3, je me suis dit, on est plus proche d'un comics indé. Comme on peut retrouver dans certaines petites librairies, et tu sais, tu te dis c'est le truc auto-édité.
Je vais lui faire plaisir.
Je vais lui faire plaisir. Et alors ouais, c'est pas très beau, mais en fait je trouvais ça plutôt bien gaulé. Donc je suis bien marié, je voulais me moquer, et puis finalement je vais pas pouvoir le faire. Il y a une bonne balance entre la légèreté et le drama, le chara-design est plutôt chouette. Il y a même une. Enfin voilà, il y a les seconds rôles et tout, on voit au fur et à mesure que ça s'étoffe et que ça s'écrit. Le gardien de prison est lui-même impliqué dans. Il a des dettes sur la Lune, parce que sur la Lune ils ont envoyé des kaijus et ils ont monté un casino. Dit comme ça, c'est un peu débilos. Mais en fait j'ai passé du bon temps. Comparé à Injection où j'ai rien pigé pendant 120 pages. Là j'ai pris un peu plus de plaisir finalement.
Un peu plus fun, un peu plus léger, un peu moins...
Un peu moins, ouais. Bah.
je vais donner la parole à qui? Non mais sérieusement, à Lucille.
J'ai bien aimé hein, Kaiju Max, et pourtant je l'ai lu rapidement hein, pour une question bête de temps, hein, donc ce qui fait que j'ai pas pu vraiment pousser. Mais je suis vraiment rentrée vite dans le truc, effectivement, le dessin est pas terrible, mais comme ça reste... efficace, on va dire, on rentre vite, on repère vite qui est qui. Le panel de monstres est vraiment cool, parce qu'il n'y a pas que des monstres, il y a aussi genre des gros robots, des trucs comme ça. Ils ont tous une histoire, genre il y a des. Bah forcément, vu que c'est une prison de haute sécurité, il y a des gens qui viennent les voir. Donc forcément, c'est des monstres géants qui font des. Je sais pas. plusieurs centaines de mètres de haut et genre c'est papa qui vient me voir et en fait c'est un humain taille normale, etc. et voilà, et en même temps il y a vraiment beaucoup de références à, bah, si vous justement vous avez regardé Godzilla et compagnie, il y a des petits clins d'œil, bah, le fait que par exemple justement dans le premier chapitre bah, ils doivent nourrir ses enfants, bon, bah, par exemple typiquement c'est ce qui se passe dans le dernier Godzilla un peu nul qui est sorti au cinéma où la bête, son premier truc à faire c'est éventuellement se reproduire, etc. Bibule. Donc c'est le fait que bah, j'ai trouvé ça plutôt cool et je le suivrai peut-être pas forcément parce que c'est pas la grande passion, mais ça se lit vraiment, vraiment de façon très agréable, c'est mignon.
Ça fait plaisir.
Ouais.
Elaine.
Elle
attention,
a pas aimé.
Attention,
elle
attention.
Est rembrognée,
elle
a... genre,
attention.
Elle
a...
C'est pas la soirée de Elaine.
De toute façon, on va se pas écouter la soirée, j'ai bien vu, j'ai bien vu.
T'as bien vu dans mes yeux qu'il y avait un truc mauvais déjà de départ. Non, je rigole. Alors franchement, c'est beaucoup plus honnête que ce qu'a pu faire IDW sur la licence Godzilla qu'ils ont et où c'est quand même vachement mauvais, je trouve.
Est-ce que c'est un truc qui s'appelle Awakening, un truc comme ça ?
Il y en a eu plein. Il y a eu Godzilla in Hell, Godzilla Ruler of the World, Godzilla,
Godzilla contre-attaque.
C'est ça, Godzilla
la mer.
Mettons.
Godzilla in Hell, non ?
Ouais, en sortant.
J'ai pas ouvert, mais franchement,
non, mais ouf
Godzilla
pas.
In Hell.
Ouf pas, c'est pas la peine de te faire du mal. Donc franchement. Franchement, à part le dessin qui n'est pas du tout mon truc, et ben moi je suis assez cliente du côté un peu à la hausse.
D'accord.
En fait, pour ceux
qui
connaissent.
Oui,
en fait,
j'ai l'inspiration. Les gants, tout ça.
Voilà. J'ai pas sorti le truc.
Vous me vendez le truc de ouf.
Bah non, mais voilà, c'est des gants de monstres mignons,
c'est
en fait.
C'est trop drôle parce que tu vois, il va voir, au début, il y a une chèvre qui est un peu dépressive, là, qui lui dit genre, non, mais va voir Elmos, en fait, c'est lui qui peut t'aider. Et puis il va voir Elmos, puis du coup, après, il a une dette auprès d'un gang, tu vois. Enfin, c'est complètement ouf, en fait. Tu croirais, ouais, Oz ou Prison Break.
Voilà.
Ou,
je sais pas, et du coup, la dichotomie entre le dessin, super, voilà, assez simpliste, assez très coloré, machin, etc. Et ce côté en fait sérieux, sur le coup tu commençais à dire, moi j'ai commencé à dire comme ça, genre ouais non putain ça me fait chier, c'est moche, putain c'est quoi ce truc, et au bout d'un moment tu te retrouves un peu pris dedans et tu fais putain c'est vraiment con que le dessin me plaît pas, parce que sinon bah je pense que c'est une série avec un autre dessin j'aurais pu continuer. Mais
est-ce que ça aurait été bien avec un truc super sérieux, des gros, des beaux traits, des machins?
Pas forcément,
que
c'est... Mais c'est
non,
juste.
Mais là, non, mais là, c'est vraiment pas
sur
très
Internet, voilà. Tu vois des mecs qui ont fait des covers qui ne sont pas
ouais,
les dessinateurs,
voilà.
Et qui font des trucs très. En fait, tu sais, personnages un peu design toys.
Ouais.
Et ça marche.
Je les avais vus.
Il me semble cool. Qu'il y a Brian Lee O'Malley qui aussi a publié.
Chez Onipress.
Onipress, Scott Pilgrim. Qui a participé, j'ai pas encore eu l'occasion de la voir, on va essayer de vous la poster si j'y pense.
C'est un peu pixel art, c'est un peu gadget.
D'accord.
Je suis un peu déçu.
C'est pas ce qu'il fait.
Non.
D'accord.
Après lui-même est un peu dégoûté de faire Scott Pilgrim. Enfin, quand tu le suis sur Twitter, genre, la façon dont il parle de son œuvre, il a l'air saoulé.
Dégoûté.
En fait. Il a l'air saoulé par
ouais, il en a marre.
Le fardeau que ça peut représenter.
Et revenons sur Kaiju Max avec Line.
Non mais je pense que c'est un peu le problème de Oni ou IDW ou des petites maisons comme ça, qui parfois ont des titres qui sont super sympas au niveau de l'écriture et qui souffrent d'un dessin qui est vachement en dessous et de super belles covers. Donc tu te fais avoir parce que tu fais putain la cover le déchire, le pitch il a l'air mortel, t'achètes le truc, tu l'ouvres, tu fais oh putain, ah merde, c'est quoi ce dessin? Et en fait tu te rends compte au bout de quelques numéros, tu voudrais continuer à le lire parce que tu trouves ça cool, et en fait le dessin il finit par te saouler, donc du coup tu poses la série quoi.
Alors sans être absolument méchant, moi ça me fait penser, enfin le dessin me faisait penser à au mini BD qu'on peut trouver à l'arrière des boîtes de céréales.
Mais qu'il est méchant.
Mais voilà, je ne sais
c'est
pas dessiner. Je ne sais pas dessiner.
Non mais c'est vrai qu'il y a de ça. Mais enfin c'est pour ça que je te disais tout à l'heure, je faisais référence.
Et c'est
à...
pas pour vous dissuader hein.
Non mais je faisais référence tout à l'heure aux petites éditions de comics indépendants que tu peux retrouver, des trucs complètement one shot,
ouais.
des mecs qui se font un peu un trip artistique parce qu'ils ont une histoire qui est un peu pété, avec un dessin un peu pété. Et enfin, tu vois, en fait, ça fait pas. C'est clairement pas ce qu'on voit dans les comics.
Ben alors, dans un. Enfin, on en avait déjà parlé dans l'émission, mais dans un genre un peu différent, dans le truc vraiment genre fait sur internet, en hobby et machin, il y avait Capture Creatures. Dont Zef a parlé il y a plusieurs mois.
Mais qui était plus doux à l'œil.
Voilà, qui était plus doux, mais parce que le travail était quand même. Enfin, ils ont vraiment mis l'accent dessus. Là, ils n'avaient pas de deadline à respecter. D'ailleurs, je pense qu'ils doivent toujours en être à 4 issues en un an. Mais voilà, pour dire que même quelque chose d'une, enfin qui a une petite envergure et qui est fait dans son coin peut avoir une qualité graphique bonne, et surtout, alors que l'histoire elle est pas si ouf quoi, mais voilà, ils ont pris le temps, et donc voilà, il y a toujours cette histoire d'équilibre entre dessin, couleur et scénario. C'est très très dur d'atteindre la perfection à ce niveau-là, et c'est pour ça qu'on fait cette émission, hein. C'est pour pouvoir voir ce qui est fait à droite et à gauche et en parler ensemble.
C'est vrai.
Quelle belle conclusion, n'est-ce pas?
Oh, c'est beau.
Shabadabada.
Voilà, comme d'habitude, les revues, vous pouvez les commenter sur Twitter grâce au hashtag ComicsOutcast, nous faire vos recommandations, vos remarques. On va passer à la deuxième partie d'émission, après cette page de pub.
Ah non?
Non.
Que je montrerai après. Et en attendant, on va passer à la discussion. Alors, cette semaine... Elle était drôle, cette pub, hein.
Mais quel enfoiré.
Cette semaine, on va parler...
Après la discussion, promis.
On va parler du personnage de Kick-Ass, enfin du personnage de la série, de la saga, si on peut dire, Kick-Ass. Vous en avez forcément déjà entendu parler, que ce soit en comics ou au cinéma. Du coup, nous, on va s'axer plus sur le comics, naturellement, et c'est Lucie qui va nous en parler.
Oui, donc effectivement, Kick-Ass, c'est intéressant de revenir quand même dessus, parce que c'est devenu très populaire il y a quelques années, grâce au premier film qui a vraiment eu beaucoup de succès. Donc pour situer un petit peu, donc Kick-Ass, qu'est-ce que ça raconte? Donc c'est l'histoire d'un ado qui s'appelle Dev Lizevski, enfin bref, un truc comme ça. Et donc c'est un ado comme les autres, il n'est pas très exceptionnel. Il est peut-être polonais, on ne sait pas. Il est moyennement intelligent, il se fait racketter à l'occasion par des bruits du quartier, il aime bien glander avec ses potes et lire des comics. Enfin, donc voilà, c'est pas...
America, fuck yeah.
Voilà, la vie, c'est pas super ouf, c'est simple, c'est facile, mais voilà. Et un jour, en fait, Dev, il va partir d'un postulat très simple, peut-être un postulat... Une question que vous êtes peut-être déjà posée, vous, dans votre vie. Pourquoi personne n'a jamais tenté de devenir un vrai super-héros? Donc... Il va aller sur internet, il s'achète un costume, qui est donc une tenue de plongée, et il va dans la rue. Sa première tentative tourne à l'échec le plus total, puisqu'il se fait complètement tabasser, il est à moitié laissé pour mort, et au moment où il essaye de s'échapper, entre guillemets, il se fait en plus renverser par une voiture, donc vraiment échec total. Il va passer plusieurs mois à l'hôpital, il va subir des opérations, de la rééduque, etc. Et il va se faire surtout poser des plaques de métal un peu partout dans le corps, qui vont, pour le coup, le rendre un petit peu moins sensible à la douleur. Bien évidemment, ça ne va pas du tout le refroidir. Dès qu'il sort de l'hôpital, il se remet tout de suite en selle. Et en fait, un soir donc, où il fait un petit peu, on va dire, sa patrouille, il va sauver la vie d'un homme sous les yeux des badauds qui vont alors filmer la scène sur leur téléphone portable et la mettre sur YouTube. Et c'est ainsi qu'aux yeux du monde naît Kick-Ass, donc son personnage, son alter ego super-héros.
Donc c'est un super-héros viral.
C'est ça, exactement. Et bien sûr, à partir de là, son rêve va complètement devenir un bordel sans nom. Tout va lui échapper et il va lui arriver tout un tas de trucs. Donc, dans le premier tome, ça commence par la rencontre avec un duo de justiciers qui s'appelle donc Hit Girl et Big Daddy, qui le surpasse en tout point. Donc, Big Daddy, c'est un adulte, c'est un prétendu ex-flic qui a entraîné dès son plus jeune âge sa fille Mindy, qui est donc la petite Hit Girl, qui a 10 ans écart dans le premier comics.
Écart.
Et qui en fait est spécialiste des arts martiaux, elle est spécialiste en maniement d'armes, elle est capable de tuer de sang-froid n'importe qui avec absolument tout ce qui lui passe sous la main, et même parfois sans rien dans les mains. Enfin bref, c'est une machine de guerre. Et en fait, tous les deux, ils sont partis en croisade contre le chef de la mafia de New York, qui est alors John Genovese, et qui est tenu pour responsable de la mort en fait de l'épouse de Big Daddy, donc la maman de Hit Girl. Et là forcément quand Kick-Ass lui il était là tranquille petit ado, il lit des comics, il va dans la rue, il pensait pas tomber sur deux bêtes de sang de ce genre. Il va se faire embarquer par eux et il va partir donc pareil à l'assaut de la mafia.
Un petit côté mentor et élève.
Et exactement, puisqu'il se dit là j'ai des vrais super-héros sous les yeux, ils font beaucoup mieux que moi, et du coup voilà, sauf qu'en plus forcément ça va partir complètement en live. Et ça, je vous parle que du premier tome et je me permets de raconter ça parce qu'en plus c'est le pitch du premier film que vous avez probablement tous vu à mon avis. Si c'est pas le cas, je vous invite à le faire, j'en parlerai un petit peu plus tard. Donc Kick-Ass, c'est une série en 3 tomes plus un spin-off, donc Kick-Ass 1 qui a été édité entre 2008 et 2010, Kick-Ass 2 entre 2010 et 2012. En 2012-2013, il y a un spin-off qui s'appelle donc Hit Girl, qui en fait chronologiquement prend place entre Kick-Ass 1 et 2. Et enfin le Kick-Ass 3 qui a été édité entre 2013 et 2015 et qui donc est sorti un peu plus tôt dans l'année. Donc aux États-Unis, c'est publié dans la collection Icon de chez Marvel Comics. Et en France, c'est chez Panini. Donc c'est une histoire qui a été imaginée par Marc Millar et dessinée par John Romita Jr. Donc Marc Millar, c'est quand même une sommité dans le domaine des comics. Si le nom ne vous dit rien, bon ben, il a un peu travaillé chez tout le monde, hein, DC, Marvel, Image. Il a écrit des séries très populaires comme les Ultimate X-Men, voire qui ont bouleversé les univers, genre Civil War,
oui.
Voilà. Ou encore des trucs plus personnels comme The Secret Services qui donnera Kingsman au cinéma, ou encore Wanted qui pareil a eu une adaptation, vraiment adaptation du coup, au ciné, qui est plutôt moyenne mais que j'aime bien quand même. Voilà. Quant à John Romita Jr., bon bah pareil, c'est un très grand nom chez Marvel Comics, il a touché à tout, Spider-Man, Iron Man, Daredevil, X-Men, il a une patte reconnaissable entre mille, un dessin très particulier, des traits clairs mais assez assurés, et surtout ces espèces de visages, ces espèces de gueules qui est assez, toujours des nez très plats, on a l'impression qu'ils ont tous des nez de boxeur. Moi je suis très très fan de ça, c'est un truc qui est très typique chez lui. Et donc voilà, donc déjà on a quand même deux types qui assurent un peu la patate, donc ça, voilà, déjà ça pose un peu les bases. Le comics, il est né en fait d'une très vieille idée de Marc Millar, puisqu'en fait il a très rapidement admis qu'il y a des grandes similitudes entre le Marc Millar adolescent et Dave, puisqu'ils ont notamment le même schéma familial, donc à savoir une maman partie tôt, etc. L'envie d'être un super-héros, hein, il a admis que quand il était ado, il s'est mis à faire du karaté, il s'est entraîné parce qu'avec ses potes, ils avaient envie d'aller casser la gueule des méchants dans la rue, mais que contrairement à Dave, il a jamais eu le courage de mettre un costume. Donc voilà, c'est quand même une histoire qui lui tenait à cœur et qu'il a réussi à faire sortir de sa tête. Et en fait, on va dire l'intérêt de Kick-Ass, c'est que c'est une histoire qui est vraiment très ancrée dans la réalité. C'est-à-dire que ça part en live comme ça pourrait de toute façon partir en live à un moment. C'est-à-dire les super-héros à qui tout réussit, entre guillemets, etc. Bah, c'est fini depuis très longtemps. Kick-Ass va encore plus loin puisque c'est censé être un ado qui voit sa vie complètement détruite par ses ambitions de super-héros. Mais c'est aussi et surtout un énorme hommage aux comics. C'est blindé de références,
oui.
Que ça soit sur les fonctionnements scénaristiques, puisque bon, bah, par exemple, tout de suite, c'est bah, on affronte la mafia, donc c'est quand même un truc qu'on retrouve beaucoup, notamment chez Batman. Le deuxième tome par exemple, il tourne autour du recrutement de super-héros et de super-vilains. Il va y avoir deux teams qui vont s'affronter. Il va y avoir un moment où la population en a marre des débordements, donc les costumes vont être interdits par la loi dans la rue. Donc voilà, ça peut faire, ça rappelle un petit peu Civil War. Dans le tome 3, il y a même carrément un moment où ils vont se dire on va recréer une scène de Batman Year One. Donc ils vont vraiment à fond dans les références. Et de toute façon, ils passent leur temps à lire des comics et à faire écho de ce qui se passe dans leur vie, entre guillemets, avec des trucs qu'ils ont lu. Donc en plus, ça peut être pas mal si vous aimez bien les comics, soit de repérer les références, soit justement d'en récupérer. Donc c'est un, voilà, c'est un comics qui est extrêmement violent.
Ah oui.
C'est extrêmement sanguinolent. C'est extrêmement vulgaire. C'est extrêmement cru. Et ça ne lésine pas du tout sur la cruauté du monde réel. C'est aussi pour ça que j'ai aimé le comics. Moi, j'ai découvert j'ai vu le film. Je me suis pris une énorme baffe dans la tronche parce que j'ai trouvé ça super cool. Donc je suis allée le revoir tout de suite au cinéma derrière. Et en fait, quand j'ai ouvert le comic, j'ai dit hey, mais
ça
en fait,
bizarre,
mais en fait, c'est vachement moins bisounours entre guillemets, parce que le film a quand même des scènes extrêmement violentes. Il y a des trucs, mais picturalement, c'est ouf, comme l'attaque de Big Daddy, cet immense plan séquence dans un hangar où le type il tue 15 types. C'est affolant. Et ben, c'est rien du tout à côté du comics. Le comics, vous avez des pages entières qui sont rouges, rouges de sang. Vous avez des organes, vous avez des lames à travers des corps. C'est magnifique. Enfin, j'aime vraiment.
Je kiffe les viscères.
Mais, oui. J'aime les viscères. Mais d'ailleurs, je crois que j'avais déjà dit dans une émission. Moi, j'adore.
Ah, quand on parlait de Big Man Plains.
Même plus tôt. Mais effectivement, voilà. Même pareil dans Big Man Plains. Moi, j'aime vraiment les corps décharnés, etc. Quand c'est bien fait, en fait, visuellement, c'est ouf. Et c'est et je vois Adrien qui est à moitié amusé et scandalisé avec une goutte de sueur qui est le long de son front. Et c'est d'autant plus affolant que, bon, bah, il y a le personnage de Hit Girl qui est vraiment, dans un univers parallèle. Si je devais avoir une fille, j'aimerais que ça soit Hit Girl, tu vois. Et en fait, voilà, vous avez cette petite fille qui est toute petite et qui est là en train de tuer des tas de types, etc. et qui dit des gros mots et compagnie. Et c'est vraiment quelque chose qui choque. C'est vraiment un truc qui, ça lésine sur rien. Et ça en rend vraiment, du coup, je pense que c'est quelque chose qui est à lire. Parce que c'est quelque chose de marquant. Parce que c'est, voilà, ça part d'un bon sentiment. C'est qu'est-ce que je ferais si demain j'avais envie d'être un super-héros du quotidien. Et ça te montre tous les travers que ça peut avoir. Et ça montre aussi où l'humain, justement, peut aller. Parce que, mis à part le fait qu'il a des plaques de métal dans le corps qui lui permettent de ressentir moins la douleur, bah Dev, c'est un type comme vous et moi, il n'est pas forcément plus costaud. C'est un geek au mauvais sens du terme, c'est-à-dire qu'il est tout frêle, il a des binocles, donc ce qui fait qu'en plus, quand il met son costume, bah, il ne voit pas très loin. Et ça, c'est un truc qui est quand même important. Et voilà. Et franchement, voilà, moi, je sais que c'est une série que j'aime beaucoup et que je vous conseille fortement. Ça me fait très plaisir d'en parler aujourd'hui. Et j'attends avec grande impatience, l'avis de mes copains avant de parler vite fait des adaptations ciné à la fin.
Prenons celui de Laine.
Ok. Ben oui. Alors, que dire? Je sais pas comment dire ça. En fait, moi, j'aime pas.
C'est la soirée de Laine.
Mais ouais, alors mais moi, c'est toute ma soirée.
Ce soir. Check de ouf.
Mais non, bah, t'aimes pas non plus.
High five entre Joe et Laine.
Alors, mais pourquoi?
Moi, j'aime pas Mark Millar.
Voilà. Voilà, Mark Millar, pour moi, c'est un mec qui est capable de vous sortir Superman Red Son et qui est capable à côté de vous sortir Nemesis. C'est-à-dire tout le meilleur du comics et tout le pire du comics. Donc des séries géniales à côté de séries qui sont bâclées en 4 numéros, qui sont si on mettait tous les trucs les plus gore du monde entier dans un comics parce que ça va faire vendre des trucs.
Mais là, pour sa défense, il a tout donné dans tout.
Oui,
cas.
Non, alors
complètement.
Je situe pas Kick-Ass au niveau de Nemesis. Mmh. Pour moi, Nemesis, c'est le pire qu'il a fait. Superman, c'est un des meilleurs trucs qu'il a fait. Kick-Ass, c'est juste que moi, la surenchère de violence et de vie réelle, etc., c'est pas ce que je recherche dans le comics. C'est pour ça que ça me parle pas spécialement. Sachant qu'en plus, John Romita Jr., bah, c'est pas un graphiste qui me parle. Surtout que je trouve qu'au fur et à mesure des épisodes, on sent que lui-même a une lassitude dans son dessin. Quand on compare les premiers épisodes de Kick-Ass qui sont plutôt très bien dessinés et qu'on arrive sur les derniers épisodes de Kick-Ass où on sent que bah, même lui, il en a marre de dessiner ça. Voilà, je trouve que c'est pas constant graphiquement sur tout le truc. Il y a le seul truc qui m'a fait marrer, c'est qu'effectivement le personnage de Hit Girl, moi je l'adore.
Elle est ouf.
Bah, je pense que c'est une favorite parmi beaucoup de gens.
Bah, complètement.
Je dirais pas parce que je veux pas spoiler, mais il y a des scènes de prison où elle est pareil, un peu à la hausse, tu vois, où elle est genre tu les as lus aussi le spin-off Adrien.
Non, du coup, je crois que t'as lu que le premier.
Voilà. Et ben, du coup, toi, tu vois ce que je veux dire, oui. Du coup. Et elle est trop badass. Donc ça, c'était cool. Mais c'est à peu près le seul truc qui m'a fait bien triper dans le comics. Voilà. Moi, encore une fois, je pense que je suis juste pas le public, dans le sens où je cherche peut-être plus la prise de tête en lisant un comics, comme vous avez pu le voir avec les trucs de chez Image, où j'ai besoin qu'on me transporte ailleurs, qu'on me fasse rêver, qu'on me lance des pistes, que j'ai besoin de me truc. Quand on met des trucs de la vie réelle, en fait, bah, à la limite, tu vois, j'ai l'impression de lire le magazine Détective avec des gens qui sont tronçonnés en morceaux, des trucs comme ça. Moi, ça me fait moins rêver.
Tu savais pas que Détective, c'est pas la vie réelle.
Comment
tout est inventé.
Oh non,
la déception.
Merde. Voilà, Joe vient de me casser un mythe, moi je vais m'en aller maintenant.
Et enfin, Adrien.
Oui, alors moi je connaissais les adaptations cinématographiques, effectivement, et là du coup ça a été un réel plaisir de lire enfin les comics. J'ai vraiment pris une claque parce que j'ai trouvé ça beau, parce que j'ai trouvé ça bien écrit. Alors j'ai malheureusement eu assez peu de surprises scénaristiques,
ouais, oui.
connaissant l'adaptation. Je vais peut-être pas niquer la chronique en parlant des différences avec le film, ni spoiler d'ailleurs le comics.
Alors on parle quand même d'un comics qui sortit en 2008 et d'un film qui sortit en 2010.
Oui, mais bon,
on a la possibilité d'en parler sans spoiler.
On vous présente, voilà. vous regardez.
Il faut savoir que... Non, parce que j'ai vraiment pris du plaisir, donc j'ai envie que les gens aient envie de lire le comics. Il y a des différences notoires, il y en a on va dire une ou deux qui clairement donnent un réel regard au livre par rapport à ce qui peut se passer dans le film. Après, voilà, du coup, j'ai assez envie de lire la suite et ce qui peut se passer. C'est une grosse force, c'est quand même que ça peut se finir comme ça. Enfin, je sais pas si le Kick-Ass 2 et 3 et les spin-offs étaient prévus au moment où Kick-Ass 1 s'est terminé. Mais c'est cool de voir une histoire qui se finit et qui pourrait s'arrêter comme ça, c'est chouette.
Apparemment, de ce que j'ai compris dans la production, le deuxième tome, enfin le Kick-Ass 2, était déjà en projet quand le 1 était fini.
Oui.
D'accord.
Donc il voulait continuer.
Ok. Mais donc,
d'une manière ou d'une autre.
C'est cool quand même de pouvoir mettre fin à des histoires de façon assez correcte, quoi.
Voilà.
Mettre fin de façon conclusive.
Ouais. Voilà. Ok, donc Kick-Ass alors, donc c'est sorti, pardon, tu veux ajouter quelque chose?
Je voulais juste parler vite fait des adaptations ciné. Donc effectivement le 1 qui est sorti en 2010, qui est réalisé par Matthew Vaughn, qu'on avait déjà pu voir plusieurs fois. Enfin, en gros, après coup il a réalisé Kingsman, qui est donc tiré de Secret Services aussi de Millar. Ouais. Il a réalisé X-Men First Class. Dans tous les cas, c'est quelqu'un qui a vraiment une patte visuelle qui se ressent vraiment dans le film. Et donc comme disait Adrien, il y a pas mal de différences, à savoir que le scénario a quand même été élaboré pendant que le comic s'était sorti. Il a été complètement fait en collaboration et adoubé par Millar, donc ça respecte, etc. Par contre, le 2 est quand même assez mauvais. Il est plus ou moins appuyé sur donc le spin-off Hit Girl et beaucoup sur Kick-Ass 2, mais il y a plein de trucs qui vont pas. Donc à la limite, lisez plutôt le comics. Et normalement, on ne devrait pas avoir de 3, mais oui, Matthew Vaughn et Millar ont envie d'en faire un 3 ainsi qu'un préquel Hit Girl. Donc on va juste mettre des petites bougies et sacrifier des vierges pour qu'ils le fassent pas.
Elle est trop grande de toute façon.
Ça serait pas avec elle de toute façon. Bah, déjà dans le 2, elle est censée avoir 12-13 ans dans le comics. Ils ont été obligés de la grandir parce qu'elle a 16 ans. Elle a déjà un physique de femme. Donc voilà. Donc lisez plutôt les comics et plutôt que de vous taper le 2 qui est vraiment pourri.
C'est vieux, Adrien. Joe, pardon.
Voilà, c'est tout.
Ok, c'est donc un bruit de paix. Et Adrien?
Non, oui, dernière petite remarque. J'ai emprunté les TPB à Lux et genre, c'était en français et j'ai été agréablement surpris par la VF. Voilà, je voulais le dire. Du coup, en fait, je sais pas exactement comment en VO il obtient son nom de Kick-Ass. J'imagine que quelqu'un lui dit que
ça veut dire qui botte
des culs et que voilà. En VF, du coup, ça tombe un petit peu comme un cheveu sur la soupe, mais ça marche bien et il y a des bonnes trades. Je pense que c'est assez bien.
Sur Twitter, est-ce que vous pouvez me dire comment s'appelle Kick-Ass au Québec? Alors, donc c'est disponible chez botte cul. Je sais rien, mais c'est tout à fait probable. C'est tout à fait probable, malheureusement. Malheureusement, vive le Québec, tout ça. Donc c'est dispo chez Icon, donc cette imprint de Marvel Comics, un peu plus violente et indépendante, même si en fait ça fait partie du Millar, mais bon, on s'en fout. Voilà, donc en français et en anglais, comme vous voulez. Merci pour cette rubrique. On va passer à Hors les Bulles après cette page de pub.
Mais oui.
Oh là là, qu'est-ce qu'il est bien fait ce film! Je me demande bien comment ils peuvent faire ça!
Eh dis donc, Giboite! Si tu veux tout savoir, écoute, y'a plus de péloche! Y'a tout sur Cinoche et le monde de l'audiovisuel! Avec des super chroniques, des super discussions et des super invités, Giboite!
Oh là là, Emmaël, où est-ce qu'on peut entendre ça?
Une fois par mois sur Radio Kawa, Giboite!
Allez, Marcel! Au studio!
Il n'y a plus de péloche, le podcast sur le monde de l'audiovisuel.
Présenté par Maël et Giboite.
Une fois par mois.
Sur Radio Kawa.
Oh là là, Giboite. J'adore cette pub. Dernière partie, on va parler de Superman, le personnage préféré de certaines personnes. Arte Créative, une cellule qui sera définie un peu plus clairement par un de nos chroniqueurs assis autour de cette table, a proposé ce mois-ci de parler du héros des Américains, hein, Superman, homme super, autour de documentaires et de petits...
Tu sens la condescendance dans la voix de cette
femme?
Pas du tout.
Il déteste.
Mais putain,
autour de films, donc ils ont repassé le premier Superman et également ont permis aux internautes de regarder 6 épisodes de la première version animée de Superman. Ça date de 1941, donc c'est quand même super ancien, mais visuellement on dirait pas, franchement. Il s'agit de la première production d'animation Batman par les frères Fleischer. J'ai dit quoi, Spider-Man?
Non, t'as dit Batman.
Batman. Là, ça va bien. Superman, parlez pas. Frère Fleischer, donc qui ont été également responsables grâce à leur studio d'animations comme Popeye et Betty Boop, qui étaient déjà au top à cette époque. C'est vraiment impressionnant. On va parler de la technique peut-être un petit peu plus tard. Voilà, donc on va parler de ça. En fait, il y a un mini documentaire de 7-8 minutes qui est assez rigolo et très bien monté. Adrien, est-ce que tu peux nous présenter rapidement Arte Créative et le but de ce petit documentaire?
Ouais, alors rapidement pour situer Arte Créative, qui est du coup un des univers d'Arte au même titre
que le Artiverse. Oh, c'est bon ça.
C'est vrai. Au même titre que Arte Concert ou Arte Futur ou Arte Info. Enfin bref, on a donc Créative qui est la branche, on va dire un peu plus geek pop qui met l'accent sur les contenus audacieux, disons.
Ah d'accord.
Voilà. et donc effectivement, ils ont proposé une journée, un focus sur Superman avec la diffusion du premier film et d'un documentaire qui s'appelle L'incroyable histoire de Superman.
Oui.
Qui était en novembre, d'ailleurs qui va être diffusé le documentaire début décembre. Et donc en effet sur leur page ils ont mis aussi à dispo ces cartoons qui sont maintenant dans le domaine public en fait. Ils en ont mis 6 dans une sélection qui est assez intéressante puisque ce cartoon en fait connaît deux grandes phases de production. Alors si je me trompe pas, hein, je le dis ça un petit peu de tête, Superman est créé en 39 je crois.
C'est ça.
En 1940 on a une première adaptation des aventures à la radio.
Ouais.
Et dès 41, donc en fait finalement le succès est allé assez rapidement, la version animée qui rentre en production chez les frères Fleischer. En fait ça va durer pendant 7 épisodes, c'est pas très très long, et sur 17 en tout. Ensuite ça sera une seconde vague par une évolution des studios Fleischer une fois qu'ils se sont embrouillés, qu'ils se sont fait à moitié virer par leur patron. Ça deviendra le Famous Studio.
Très original comme nom.
Voilà. Et effectivement on peut découvrir des cartoons qui ont pas trop mal vieilli, c'est des épisodes qui durent une dizaine de minutes, ouais. Entre 8 et 10 minutes.
Dont 3 minutes de générique.
Dont 3 minutes de générique et de trucs ultra redondants. C'est vraiment focalisé sur l'aventure, ouais. Sur Superman contre des méchants.
Et c'est quasi muet.
C'est quasiment muet, ouais, il y a assez peu de voix. D'ailleurs, les voix en fait qu'on retrouve sont celles de la version radiophonique. Donc il y avait une cohérence un petit peu là-dessus. Ne nous attendons pas à des...
Transmédia, tout ça, 1942.
Mais ouais, finalement, ouais.
C'est vrai. Les méchants, c'est des malfaiteurs ou c'est des méchants...
Alors en fait, justement, c'est là où c'est super intéressant et où quelque part, cette série de cartoons, elle s'ancre dans un contexte historique et dans une narration de ce qui se passait aux États-Unis et dans le monde. C'est qu'en fait, avant 42, Superman se bat contre des gangsters, des savants fous. Qui soit veulent faire, ils créent des tremblements de terre électriques, les Avery Twins, pour détruire Gotham, ou voler un train.
Gotham donc.
Métropolis, pardon.
Ah, chacun son tour.
Ou voler un train qui transporte $1 milliard. Alors, à chaque fois, Lois est impliqué, hein, tu sais pas.
Toujours.
Elle est toujours là. Lois est toujours là où il faut pas. Donc en fait, du coup, Superman sauve la ville, les innocents, mais quand même surtout Lois.
Oui.
C'est ça qui est assez rigolo.
Elle a un don pour se trouver au milieu du truc. Alors juste, je veux pas spoiler un des épisodes parce que bon, voilà, quand même. Elle manie super bien le flingue.
C'est vrai, j'avoue.
Elle est méga badass. Hein.
Elle est un peu badass.
Elle est méga badass.
Un peu cruche, mais un peu badass aussi.
Super conne, mais méga badass.
Et en fait, ce qui va se passer, c'est que après les 9 premiers, quand Famous Studio va reprendre un peu le truc, il y a l'entrée en guerre. Et il y a la montée du nazisme. Et en fait, du coup, là, les dessins animés vont un peu plus servir un message un peu politique. Et on va retrouver dans les malfaiteurs plutôt du type nazi.
Donc, ou asiatique.
Ou asiatique, puisque c'était pas très bien non plus d'être japonais. On a d'ailleurs un formidable mot valise avec... comment c'est
Japan Curse,
Japoteur. Qui est un mélange entre saboteur et japonais. Voilà, donc c'est un petit peu raciste et tout ça. C'est clairement de la propagande. Mais ça en dit beaucoup sur l'époque. Et c'est pas dégueulasse pour une raison. Alors en fait, après on est pour ou on est contre. Mais les studios utilisaient volontiers la rotoscopie.
Donc, alors c'est quoi la rotoscopie?
La rotoscopie,
professeur Larousse.
Parce que c'est super intéressant.
Qui consiste en fait à du coup filmer un acteur et ensuite image par image on décalque en gros. Et donc on reproduit un mouvement qui est très très fidèle et qui du coup paraît en animation un petit peu assez impressionnant.
Cette technique s'appelle aussi cette technique s'appelle aussi la triche.
Ça s'appelle un peu la triche. Non mais c'est
Disney,
un peu
tout ça.
C'est un peu vrai. Alors de grands studios l'ont fait.
Mais c'est
parfois en fait du coup ça donne des mouvements qui sont très très réalistes, qui sont pas très naturels, donc créativement c'est pas super intéressant.
Non.
Mais ça vieillit plutôt pas mal et c'est assez intéressant. Et du coup en fait grâce à cette technique qu'ils pouvaient pas appliquer aux super sauts, puisque avant ça Superman faisait des super sauts,
dans les comics, ils se sont dit
ce qu'on va faire en fait c'est qu'on va le faire voler. Et là ils sont allés voir DC, ils ont dit est-ce qu'on peut faire voler Superman s'il vous plaît. Et donc DC a fait ok go.
Je suis chaud.
Et c'est donc cette série qui aura inventé beaucoup de choses qui seront reprises par la suite. Et c'est en ça que la série elle est super intéressante.
Bah oui.
C'est que c'est cette série animée qui a donné le vol, qui a donné des grandes références comme La Cabine Téléphonique, où ça c'est un travail pour Superman.
Voilà.
Et quelque
c'est
part.
C'est un avion, c'est un oiseau. Mais non, c'est Superman.
Ça aussi, c'est ça.
Ça aussi, c'est
ça. Mais oui, c'est au début.
Putain, c'est générique, ouais.
Donc c'est assez, je trouve. Enfin, moi j'ai été assez ému.
C'est pas la radio, ça.
J'ai été assez ému de regarder ces dessins animés.
Même
si.
Ça pas, enfin voilà, c'est pas les histoires sont pas universelles, c'est pas toujours flatteur, faut remettre dans le contexte de l'époque.
Oui.
Mais on prend un petit pied quand même.
Alors pour le côté flatteur, quand tu regardes les dessins animés, même trucs vraiment méga cartoon, et que tu vois les trucs les plus jolis, mignons, avec Bugs Bunny qui se bat contre des gens chauves ou qui ont une moustache, je veux dire, il y a des tu peux faire des parallèles entre plein de choses. Là, Superman, c'est un mec un peu plus sérieux qui se bat contre des menaces un peu plus dangereuses. Au final, ça reste le même message de le gentil américain blanc gagne contre l'envahisseur. Mesdames, avez-vous vu ces petits épisodes d'hier? Putain, ça fait combien maintenant? Je sais pas compter, ça fait 70 ans, c'est ça? 1940.
Bon alors je sais pas, moi.
Attends,
je compte
pas, moi j'ai fait elle, alors je ne compterai pas.
Pareil. Oui, un peu voilà. Plus, oui, voilà.
Vas-y, je t'en prie.
Oui, c'est en couleur. Ah oui, c'est en Technicolor, c'est un des.
C'est en Technicolor.
C'est très impressionnant.
C'est en Technicolor, effectivement.
Je fais ma soustraction, j'arrive.
Moi, pour conclure cette soirée, du coup, je dirais juste que c'est Superman et que j'ai. Non, je rigole en fait, c'était super bien. Je remercie Adrien de nous avoir fait.
Superman, c'est super bien.
Parce que j'étais dans mon canapé hier et je les matais tous et pourtant j'étais super fatiguée. Et j'ai fait bon allez, j'en mate 2, j'en mate 3 et puis en fait je les ai tous matés. Ouais, et c'était cool parce que ça m'a parlé, déjà j'adore les années 30-40 machin, donc visuellement ça me parle énormément au niveau des designs, des bagnoles, des costumes, etc. Et ça m'a rappelé plein de trucs que j'aime bien. Alors ça, au niveau qualité, c'est au niveau de Blanche-Neige. Je trouve que il y a comme tu disais,
il y a beaucoup utilisé la rotoscopie,
voilà,
aussi.
Ça vient oui, de aussi. La technique, mais du coup c'est très très beau. Ça m'a rappelé aussi, je ne sais pas si vous connaissez ce dessin animé, Le Roi et l'Oiseau.
Oui.
Voilà, donc au niveau de la qualité, vraiment encore visuelle. Et puis ça m'a rappelé aussi Batman Animated, voilà, qui utilisait beaucoup.
Ça donne beaucoup de son empreinte, je trouve, à Batman Animated,
voilà,
et même
ça.
À Superman Animated.
Voilà, et du coup, c'est vrai que c'est tout ce que j'aime avec ce côté très rétro, cette empreinte visuelle marquée. Alors bon, après, les histoires sont pas oufissimes. Quoique, franchement, moi, le premier épisode avec le scientifique fou, quand il descend ses escaliers ronds, oui. etc., ça m'a fait penser à des trucs un peu...
c'est expressionniste,
à la
en fait.
Voilà, ouais. C'est ça.
Ouais,
en fait, clairement, d'ailleurs, cette scène avec l'escalier, elle sort du coup en 41, enfin, je crois que c'est 2 ans après Fantasia, ou même 1 an après Fantasia, et je pense que c'est exactement, enfin si c'est pas pompé, c'est quand même un énorme hasard, quoi, ouais. Parce que c'est, alors les scènes des escaliers, c'est
alors pour le coup, dans le mini documentaire de Créarté Créative, ils disent que ça vient de Fritz Lang en fait.
Oui,
il y a une
alors
scène d'escalier
en fait,
aussi.
Ouais. Ce qui était le cas aussi de Fantasia, mais vu l'angle, je pense qu'en fait il y a le cinéma expressionniste allemand filtré par Disney qui est revenu dans
ouais,
ça, enfin je pense.
D'accord, mais c'est non, moi, je ne connais pas du tout.
En train de regarder sur le site Créative, ouais.
C'est
C'est beau de ouf.
Ah, non, mais je m'attendais pas à ce que ça soit aussi joli en fait.
C'est 1942, voilà.
Mais encore dans le premier, il y a l'espèce de corbeau qui est avec le scientifique.
Oui.
Ça rappelle justement le corbeau qui est avec la méchante reine dans Blanche-Neige. Il y a plein de petits clins d'œil comme ça. Et puis même le personnage féminin. Quelque part, elles sont pas tartignoles, quoi. J'avais un peu peur. Voilà, il y a un moment une espionne qui est quand même le personnage central d'un épisode et qui, même si elle est sauvée par Superman, parce qu'elle a quand même à peu près tous les méchants de la ville à son cul, elle est quand même badass, quoi. Et elle y va. Et Lois, même si elle est un peu stupide, etc., c'est quand même une meuf qui
elle
fonce,
est méga bad, ouais.
Qui monte dans un avion et qui va essayer d'aller défoncer.
Ça, je vais me cacher dans un bombardier.
Voilà. Je vais toquer directement chez le méchant parce que c'est souvent la meilleure.
Il prend toujours Clark un peu pour un con en lui disant mais vas-y, je vais m'en occuper, toi tu peux rien faire.
Ah, c'est marrant, le train il va vraiment pas vite. Et si j'allais dans la locomotive pour voir comment ça se passait. Ah merde, il n'y a plus personne. Oh, il y a des gens qui me tirent dessus. Et si je prenais un flingue pour leur tirer dessus. Genre la nana n'a aucune notion du danger.
C'est ça. Mais ce qui est cool en plus, c'est qu'à la fin de l'épisode, à chaque fois, Clark il lui dit oh super Lois, c'était trop bien ton article. Ah merci, mais tout ça c'est grâce à Superman.
Voilà, donc elle retire
les
ça.
Boules, les méga boules pour Clark.
C'est ça.
Je peux pas la baiser.
Le méchant, il est flippant en plus, le savant fou là.
Ouais, mais tous les méchants. Et donc en fait,
ce premier épisode, qui s'appelle Superman, je crois.
Mad Scientist.
Et en fait, ouais, aka The Mad Scientist, est dans le top 50 des meilleurs clips animés ever. Qui a été rédigé par je ne sais qui, j'ai vu ça sur Twitter.
Genre
sur
Rotten Tomatoes, Wikipedia. Un truc comme ça.
Je crois que c'est un truc professionnel.
Officiel,
c'est un jury professionnel qui avait estimé ce top 50.
Parce que j'étais quand même choqué, même si il me semble que c'est un des premiers, enfin pas un des premiers, mais ils ont eu la chance d'avoir assez d'argent de droite et de gauche pour utiliser la Technicolor qui était très très chère à l'époque. Et les gens l'ont vu, ils l'ont reconnu, et du coup c'est le culte de cette première série, de ces premiers films, est passé assez haut très rapidement. Et donc encore aujourd'hui en 2015, s'il est encore dans ce classement, kudos, comme on dit en Grande-Bretagne. C'est la fin de cette émission.
Ah déjà ? Oh là là, attends.
Comics Outcast est une émission Radio Kawa. Juste une petite note, si vous avez eu la chance de pouvoir nous écouter ou nous regarder en direct dimanche dernier, c'est bien parce que vous n'aurez pas à le faire, mais pour tous les autres, vous pourrez regarder la vidéo qui a été mise mercredi dernier sur YouTube. Donc voilà, vous allez sur YouTube, vous rentrez Radio Kawa, et dans les dernières vidéos, vous pourrez voir toutes les émissions qui étaient enregistrées pendant le week-end d'émissions spéciales qui ont pu être organisées grâce au Patreon auquel vous avez pu participer. J'ai réussi à placer deux trucs importants dans la même phrase.
Et
trop cool.
On peut annoncer déjà la date de la prochaine ou pas encore?
Comment c'est la prochaine?
Il va y avoir un autre week-end d'émission live.
Voilà. Ah oui,
il n'y a pas de date fixée encore.
Il y a une date, mais il n'y a pas d'émission encore.
Ce sera premier week-end de décembre, donc 7 et 8 décembre. Non.
Si, c'est ça. En même temps que le Téléthon.
Mais ça sera pas 7 et 8, ça sera le 5 et 6, je crois. Enfin bref, mais ça sera premier week-end de décembre, donc restez tunés, on vous donnera plus d'infos.
Voilà, donc ce sera pas notre tour cette fois-ci, mais on va faire en sorte de revenir, parce qu'on a bien kiffé le faire, j'espère que vous aussi. Si vous n'étiez pas là, donc n'hésitez pas à aller voir l'émission, l'enregistrement. Nous, on se donne rendez-vous le 30 novembre, juste avant décembre. C'est normal, c'est le mois qui est juste avant. Vous avez vu 9-10, 9 deck.
On connaît le calendrier sur le bout des doigts.
Jusqu'à 13. On va dire au revoir à nos chroniqueurs. À bientôt, Lane.
Bonne soirée.
On te retrouve où ?
On me retrouve où ? On me retrouve à chez Pulp Comics, comme d'habitude.
Ok. Et
oui, je l'ai dit.
Adrien, on te retrouve où ?
Dans mon lit à tout moment, parce que je suis malade comme un chien.
Dis-y, en parlant de micro.
Bien nickel micro.
Ouais. Voilà, pour la prochaine personne qui passera
par là. Ce micro date des années de Superman, personne ne s'en sert plus.
Léon Zitron est passé dedans. Lucille, à bientôt.
Oui, à
on
bientôt.
Te retrouve où ?
Moi, on me retrouve dans Allo Central un mardi sur deux, et je vais bientôt squatter chez Pass le Stick. Voilà.
Ah, PLS carrément.
Ouais, le 23.
Ah, faut que tu m'invites, j'ai trop envie d'aller là-bas.
À mon avis, vu la place qu'il y a, il va peut-être falloir demander.
Je vais utiliser la soundboard,
Ah bah écoute, demande à Coco B.
Bisque Coco B si tu m'entends. Joe ?
Oui ?
À bientôt ?
Oui !
On te retrouve où ?
Écoute, sur WeFM, dans les maternelles, et dans Rockyrama, et dans Rock'n'Folk.
Et donc, même après 1h10, je me présente, je suis Eric.
Bonjour Eric.
J'ai oublié de le faire.
Bonjour Eric.
Bonjour, au revoir.
Là, il voulait ajouter quelque chose peut-être.
Non, je vais juste dire à Joe le dernier Okirama avec les Goonies, et ben c'était trop bien. Et on l'a chez Pulps.
Et ben voilà.
Les Goonies, c'est surfait. Allez.
Oh non, mon Dieu, allez, tu veux pas
chut, chut, c'est bon. Vous m'avez saoulé, vous m'avez grave saoulé. On vous donne rendez-vous dans deux semaines. Lisez des comics, amusez-vous bien. À bientôt.
Salut.